Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Germain, avec nous aujourd'hui, le président et chef de la direction de Volkswagen Canada, Pierre Boutin, qui est avec nous. Bonjour, Pierre.
Bonjour, messieurs.
Bienvenue parmi nous.
Bon, évidemment, on a une foule de questions pour répondre aux questions des amateurs de Volkswagen. Mais évidemment, avant toute chose, peut-être si vous voulez nous parler de votre parcours jusqu'au poste que vous occupez présentement chez Volkswagen Canada.
Écoutez, j'étais très choyé à travers les années. Ça fait une trentaine d'années, j'ai arrêté de compter à 30 que je suis dans l'automobile. Les premières années de mon expérience, ça s'est passé avec un manufacturier américain, où j'ai même travaillé en Allemagne pour ce manufacturier. Et au Canada, j'ai eu des chances extraordinaires dans les ventes, dans l'après-vente, dans la distribution de pièces, dans le marketing. En tout cas, bref, plusieurs étapes importantes, très formatrices aussi. J'ai eu la chance par la suite de passer chez un manufacturier japonais, où on m'a donné la responsabilité d'être DG de cette marque au Québec, d'ailleurs. Okay. Donc, ça, c'était vraiment une très, très belle expérience aussi. C'était une transformation importante pour ce manufacturier-là à ce moment-là, où il y avait beaucoup, beaucoup d'investissements sur le produit, etc. Donc, ça a été très formateur aussi. Et avec ce manufacturier, on m'a demandé de passer sur le vieux continent, où j'ai été... j'ai pris en charge l'entreprise dans l'Europe centrale, okay. Plusieurs pays de l'Europe centrale. On travaillait sur des plaques à ce moment-là. Et on m'a donné aussi après ça la responsabilité de l'Europe de l'Ouest. Donc, j'ai été en France pendant quelques années. Et j'ai fait le saut chez les Allemands, dans le fond, aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec Volkswagen depuis quelques années. Ma première étape, ça a été en Russie, juste au même moment que la crise a éclaté. Le marché est tombé de 50%. Le rouble s'est dévalué. Ça a été toute une expérience d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et finalement, je suis retourné un peu en France pendant quelques temps. Et bon, l'opportunité de revenir au Canada, chez moi, est tombée sur la table. Puis bon, finalement, pour plusieurs raisons, notamment personnelles, mais aussi professionnelles, parce qu'il y a des super beaux défis avec le groupe Volkswagen et la marque Volkswagen au Canada. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. Donc, depuis le 1er janvier, je suis de retour.
Ben, vous faites la transition merveilleusement bien avec la question que j'étais sur le point de vous poser. Justement, comme nouveau PDG d'un grand groupe comme celui qu'est Volkswagen, quels sont vos défis, buts et objectifs, disons, comme PDG de Volkswagen?
Dans un premier temps, ce qui est hyper important pour nous, c'est de développer les marques du groupe au Canada. Donc, on travaille conjointement ensemble pour arriver à maximiser, évidemment, la performance de notre entreprise sur le marché canadien. Et c'est d'arriver aussi, quand on regarde ça, ce qui est très important, Volkswagen, le groupe, est leader en Europe. On est leader en Chine, deux marchés absolument importants. On fait de très belles percées sur le continent de l'Amérique du Sud. Ouais. Et évidemment, il y a toujours le fameux marché nord-américain. Donc, pour nous, c'est hyper important d'un point de vue stratégique de se développer beaucoup plus rapidement sur le marché nord-américain qu'on l'a fait au cours des dernières décennies. Et par rapport à ça, il y a la transformation de la marque Volkswagen. Et la transformation de la marque Volkswagen, pour moi, ce qui est important, il y a deux éléments clés. Le premier élément, c'est de pousser le développement des SUV. Présentement, on en a trois, on en aura cinq au cours des prochains mois. Donc, finalement, d'arriver avec une ligne très, très, très développée du point de vue des SUV. Puis, dans un deuxième temps aussi, en parallèle, c'est de développer l'électrique, qui est devenu un élément très important pour la marque Volkswagen, pour l'entreprise du groupe Volkswagen. Évidemment, on mise beaucoup sur l'électrique pour le futur.
Vous parlez du marché du VUS qui est super important sur le marché nord-américain. On sait que Volkswagen actuellement a choisi évidemment d'éliminer le Touareg, par exemple, ouais. pour offrir un produit qui est conçu pour le marché nord-américain par les Nord-Américains. Est-ce que vous avez des intentions de peut-être ramener le Touareg qui avait quand même bonne réputation ici sur notre marché?
Il faut dire, le Touareg, ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver à s'adapter à ce que le marché désire, à ce que les consommateurs recherchent. Donc, par rapport à ça, il faudrait regarder, parce que l'évolution du Touareg, le Touareg qu'on a lancé en Europe il n'y a pas si longtemps, c'est pas nécessairement le même créneau du Touareg qu'on avait par le passé. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on voit en Amérique du Nord, les gens ont besoin d'espace, beaucoup d'espace. Il y a la question d'avoir un prix d'appel qui est juste aussi.
Oui, exact.
Et il faut arriver aussi, parce que pour arriver à percer sur le marché nord-américain, on fait d'énormes investissements du point de vue manufacturier, parce que sans avoir d'usine en Amérique du Nord, avec les taux de change, avec la question des normes environnementales qui sont différentes d'un continent à l'autre, ça ne devient pas économiquement faisable. Et l'élément suivant, c'est qu'il faut rester vrai aux consommateurs, aux fans de la marque Volkswagen. On veut leur apporter cette qualité allemande, la grande valeur de la marque et un plaisir de conduire. Donc, oui, il y a des choix à faire. Il faut s'adapter. Et par rapport à ça, je vous dirais qu'à dans l'avenir très rapproché, on ne voit pas absolument pas le retour du Touareg, parce qu'une fois de plus, le positionnement a été changé avec le nouveau Touareg. On pense qu'avec la gamme, évidemment, Atlas, qu'on a lancé, et le Crossport, qui est un dérivatif, si on veut, un dérivé du Atlas, c'est vraiment au goût des Nord-Américains. Maintenant, c'est sûr que c'est des véhicules qui ont un très gros gabarit. Et ça, c'est une chose, donc ça ne plaît pas nécessairement. Je sais qu'au Québec, évidemment, c'est peut-être pas les véhicules les plus primés, ce qui fait en sorte qu'on continue à développer notre marque des vues, justement, et on aura un plus petit vue qui va faire son arrivée au cours des prochains mois.
Qui deviendrait l'entrée de gamme des VUS, finalement.
Exactement. Okay. Qui serait, dans le fond, le petit frère du Tiguan d'aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, par rapport à ça, on voit qu'il y a une belle percée qui est potentiellement qui est accessible pour nous. Il y a un beau volume. Les gens recherchent ce genre de véhicule-là. Il y a plusieurs personnes qui délaissent les véhicules, le véhicule régulier, si on veut. On va continuer à pousser très fort sur notre gamme Golf, la gamme Jetta, ça, c'est sûr.
Ouais.
Mais quand même, il faut s'adapter, et les gens recherchent de plus en plus de SUV. Donc, on aura une gamme encore plus étendue de SUV chez Volkswagen au cours des prochains mois.
Vous nous avez rappelé qu'on avait 3 VUS actuellement dans la gamme. Là, vous nous avez dit qu'on arriverait avec 5 éventuellement. L'un d'eux, ça va être un petit VUS qui pourrait prendre la forme d'un T-Roc, par exemple. Le cinquième, ça va ressembler à quoi?
Ben, le cinquième, c'est le ID4. Qui est dans le fond notre véhicule 100% électrique, qui est donc un VU, qui va faire son entrée au printemps prochain. Donc très important, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je disais pour nous, la transformation de la marque Volkswagen passe à travers une ligne VU beaucoup plus étendue que qu'est-ce qu'on a offert par le passé, et en même temps de transformation électrique, où on veut prendre un positionnement très, très important pour la marque, avec des investissements conséquents aussi du point de vue de l'assemblage de ces véhicules sur le sol américain.
Évidemment, les produits sont très importants pour un constructeur comme Volkswagen, mais il y a aussi le réseau de concessionnaires qui est en train de se renouveler. Comment les concessionnaires se portent-ils dans le contexte de la pandémie, et ceux qui ont investi des sommes massives pour des renouvellements de bâtisses, des nouvelles images, est-ce qu'on est quand même capable de passer à travers cette tempête-là? Parce qu'il y en a qui ont souffert énormément, là.
Ah, écoutez, c'est un gros bouleversement pour toutes les entreprises présentement, mais ce qui se passe, ça, c'est sûr. Et c'est vrai aussi pour l'automobile. Les concessionnaires ont fait des miracles. Je lève mon chapeau. Ils ont travaillé très, très, très fort pour maintenir leurs opérations, maintenir les emplois partout aussi, dans toutes les concessions, au maximum qu'ils pouvaient le faire. Et ça, c'est très important parce que, comme vous savez, les concessionnaires, de façon générale, ont un apport économique très important pour toutes les régions dans lesquelles ils investissent. Donc, ils ont fait un super travail. Maintenant, ça nous donne des opportunités. Vous savez, toute crise apporte des opportunités importantes. Il y a quelqu'un qui disait, faut pas laisser aller aux poubelles les crises, parce qu'on peut toujours construire des choses positives. L'élément suivant, c'est que là, il y a une opportunité réelle. Vraiment, les gens l'ont bien compris, sur le développement du digital.
Ben oui.
Et sur le monde virtuel, pour arriver à offrir une nouvelle approche à la clientèle. Et les gens sont demandants. Et je dois dire, dans l'automobile, de façon générale, on était un petit peu dernier de
conservateur, classe. Conservateur, ben oui.
Ouais, conservateur, disons-le. Et donc, je pense que là, les gens ont bien compris, on fait énormément d'investissements dans ce sens. On travaille étroitement avec le réseau de concessionnaires. Parce que ce que j'aimerais peut-être ajouter, qui est très important, chez Volkswagen, on croit au digital, mais on croit aussi à l'environnement physique. Donc, on appelle ça plutôt, c'est du figital. C'est d'arriver de dire que le client choisisse de faire 100% ses affaires avec le concessionnaire en ligne ou directement en concession, il pourra le faire dans une année rapprochée chez Volkswagen. Et c'est très important, il faut que c'est au client à décider finalement. Et on doit s'adapter à tout ça. Je pense que c'est la plus grande opportunité ou l'une des plus grandes opportunités de cette crise. Et une fois de plus, je lève mon chapeau. Les concessionnaires ont fait un travail exceptionnel. Et comme manufacturier, notre engagement, c'est de protéger aussi ces entreprises-là de la façon la meilleure façon qu'on puisse le faire. Donc, on travaille excessivement à proximité présentement avec le réseau de concessionnaires. C'est important que ces investisseurs-là continuent à progresser. Ils sont un apport économique important. Puis, en fonction du développement qu'on veut faire chez Volkswagen, on a besoin d'eux. Puis, on compte sur eux. Donc, c'est du partenariat qui est très important.
Le fait que Volkswagen Canada ait toujours été capable de se différencier un peu de son homologue américain, ça m'a toujours un peu impressionné parce qu'on a quand même réussi à avoir des nomenclatures, des produits, des approches qui étaient différentes des Américains. Est-ce que Volkswagen a encore plus de latitude que par le passé pour que des décisions soient prises directement avec l'Allemagne plutôt que d'être dépendant de ce qui se passe aux États-Unis?
Écoutez,
considérant que les marchés ne sont pas les mêmes, évidemment.
Oui, oui. Vous savez, c'est ça, ce sont des choix qui sont toujours importants de dire il faut arriver à offrir à la clientèle une belle valeur, ce que les gens recherchent. Ce n'est pas nécessairement toujours un véhicule qui est 100% européen ou un véhicule qui est 100% américain ou nord-américain. Les Québécois le savent bien, on a des particularités, il y a des goûts particuliers chez nous. Et donc, il faut arriver à s'adapter à tout ça. Nous avons des équipes dédiées justement pour le marché canadien et on regarde toutes les opportunités, non seulement en Europe, mais partout à travers le monde. Est-ce qu'il y a des véhicules qu'on pourrait arriver à commercialiser ici avec une valeur ajoutée pour la clientèle et qui, économiquement parlant, ça peut être viable à la fois pour le réseau de concessionnaires, à la fois pour nous. Et on continue toujours à regarder ces opportunités-là. C'est sans cesse qu'on regarde ces plans-là. Il y a des investissements parce que, encore une fois, on veut continuer à développer le marché ici. C'est important qu'on ait une présence plus importante au cours des prochaines années que qu'est-ce qu'on a eu par le passé.
Vous le savez peut-être pas, mais Antoine et moi possédons tous les deux une Volkswagen du passé et on est des adeptes de conduite, disons intéressante. Et en voyant la gamme actuelle de Volkswagen qui tend à s'américaniser, croyez-vous que les adeptes de pas nécessairement de la première heure, mais les adeptes du passé de Volkswagen sont partis finalement?
Dans un premier temps, merci beaucoup, messieurs. Je suis heureux de voir que vous êtes des adeptes de la marque. Je peux vous demander qu'est-ce que vous conduisez, quel genre de voiture vous avez?
Moi, j'ai deux Volkswagen à la maison qui est un.
C'est vrai, t'en as deux, toi?
Un Touareg à moteur V8 et une Corrado G60.
Ben, de mon côté, c'est une Jetta GLX VR6 98.
Ouh! Oh, ben, merci beaucoup d'encourager la marque.
Mais il n'y a plus beaucoup de pièges chez les concessionnaires. D'ailleurs, on voulait vous en parler.
C'est ça. Ouais, c'est quoi, la Corrado, c'est pas en 1970, 69, dans ces années-là?
C'est en 91.
Ah, OK, OK. Donc, l'aspect des véhicules, on aura toujours un ADN allemand, un ADN qui est définitivement de souche européenne. Ça, c'est important pour nous. Encore une fois, il faut s'adapter au goût nord-américain. Les nord-américains, c'est vrai aussi au Québec, les gens recherchent de l'espace, les gens recherchent des véhicules qui ont un plaisir de conduire. Je pense que c'est là où Volkswagen peut arriver à bien jouer ses cartes. Encore une fois aussi, il faut arriver à développer des véhicules où on peut avoir un certain volume. Parce qu'il y a toujours la question d'arriver à pouvoir à construire ces véhicules-là en Amérique du Nord. Et ce faisant aussi en même temps, on arrive à encore une fois à faire certains choix pour la gamme de produits qu'on aura dans le futur. Mais croyez-moi, chacune des opportunités sont regardées. On a l'opportunité de faire venir des véhicules un peu partout à travers le monde. Et il y a personne qui met les bâtons dans les roues pour ce faire. Donc, on aura une gamme toujours très intéressante avec beaucoup d'électrique à l'horizon au cours des prochaines années. Ça, c'est un élément, encore une fois, essentiel de l'ADN de la marque Volkswagen.
On comprend très bien que le marché de la berline intermédiaire est en chute libre. Aux États-Unis, peut-être un peu moins que chez nous, mais chez nous, c'est drastique, c'est même violent comme chute. Et on comprend pourquoi la Passat qui est vendue en Europe n'est pas la même que celle qu'on nous offre ici, pour un paquet de raisons, mais principalement pour une question manufacturière et financière. Maintenant, est-ce que vous voyez un avenir en ce genre de véhicule-là pour le marché nord-américain? Vous avez la Passat, vous avez l'Arteon aussi, qui est un produit intéressant, mais qui évidemment est très timide au niveau des ventes. Est-ce que vous voyez un avenir pour la berline traditionnelle sur le marché nord-américain?
Il faut dire que ce n'est pas les véhicules qui sont en croissance. Ce n'est pas une gamme de... c'est pas des gammes qui sont en croissance, dans le fond, ces berlines-là. Les gens les ont laissés aller pour des, encore une fois, des VUS, des ouais. VU. Et c'est un peu, bon, encore une fois, c'est toute la question de fonctionnalité et tout ça. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Maintenant, il y a l'aspect, évidemment, de la voiture. Il y a le côté esthétique, il y a le plaisir de conduire. Et ces éléments-là, on recherche toujours des gens qui sont très intéressés. Donc, c'est là où il faut arriver à pouvoir travailler sur les deux terrains. Ce qui est intéressant chez Volkswagen, c'est que justement, avec les investissements qu'on fait, on a une possibilité de jouer sur les deux côtés, sachant pertinemment qu'à court terme, depuis quelques années, puis on le voit encore pour dans un horizon pour les prochaines années, les VUS vont continuer à progresser. D'ailleurs, encore une fois, c'est pour ça que le premier VUS qu'on aura, plutôt le premier véhicule 100% électrique après la e-Golf, ce sera un VUS avec la ID.4. On continue à regarder ces opportunités-là. Le marché pourrait arriver à changer. On ne sait jamais. Ceci dit, on ne le voit pas à court terme. C'est définitivement, encore une fois, les vues ont le haut du pavé. Puis, ça va prendre aussi, vous savez, il y a la question environnementale qui est importante à souligner.
Bien sûr.
On essaie donc, est-ce que les réglementations ne feront pas en sorte qu'il y aura des changements importants dans l'avenir de la segmentation, puis peut-être qu'on pourra compter un peu plus sur ces berlines-là? Je crois que ça pourrait arriver. Donc, on aura toujours cette opportunité chez Volkswagen d'aller puiser des berlines un peu partout dans les gammes de produits qu'on a à travers le monde.
Vas-y, vas-y.
Vous avez parlé à quelques reprises comme quoi l'avenir était électrique. Bon, est-ce que les concessionnaires sont prêts, sont équipés à recevoir cette nouvelle gamme de véhicules-là électriques? Et surtout, est-ce qu'ils sont motivés à vendre ces véhicules-là? Ou pour eux, vendre des Atlas à essence à la douzaine, c'est leur plan?
Parce que j'ajouterais à tout ça que la plupart des marques qui ont débuté la vente de véhicules électriques de façon plus massive, je pense aux Coréens, entre autres, à Nissan, on était très rébarbatif au début à vendre des véhicules électriques. Mm-hmm. On tentait de convaincre le client que c'était pas ce qu'il lui fallait. Alors que là, tranquillement, au Québec, bien sûr, à cause des subventions, les choses sont en train de changer, mais c'est peut-être pas la même chose à l'échelle nord-américaine. C'est tout un défi de décider d'arriver avec une gamme complète de véhicules électriques, puis surtout de convaincre les concessionnaires que c'est la bonne chose à faire.
Vous savez, l'élément est suivant. Je crois que c'est des changements, des transformations aussi profondes. C'est tous les intervenants qui doivent arriver à jouer un rôle. La transformation vers l'électrique, nous, comme manufacturier, on peut arriver avec des véhicules électriques. C'est ce qu'on fait. On investit énormément dans ces véhicules. On investit aussi, je dois vous dire, on a créé une entreprise qui s'appelle Electrify Canada, où on investit dans les développements de parcs de recharge de ultra rapide, parce qu'on croit vraiment, parce que juste avoir ces véhicules-là, les gens se posent la question à quel place je vais pouvoir les recharger et tout ça.
Ouais.
À la maison, c'est sûr, mais bon, il faut arriver à développer ça. Donc, c'est là où on peut arriver avec les différents paliers de gouvernement, avec les différents investisseurs, avoir plusieurs discussions, parce que ça nous prend un réseau de recharge qui est important. Donc ça prend un certain nombre d'années, vous savez. Et donc l'électrique n'arrivera pas à prendre 50% du marché demain matin. Et pour revenir aux concessionnaires, ils sont très preneurs. Je dois vous dire que constamment, les concessionnaires du Québec nous demandent ces véhicules électriques-là. Ils sont très, très excités sur la possibilité de distribuer plus de véhicules électriques. Et oui, ils ont fait des investissements. Ils sont capables aujourd'hui, puisqu'on déjà on vend la e-Golf,
ouais.
Ils sont capables d'offrir le service. Ils ont été, leurs techniciens ont été formés aussi parce que travailler sur un véhicule électrique, il y a plusieurs normes, il y a plusieurs standards qui doivent être rencontrés. Donc, les concessionnaires, comme investisseurs aussi dans leur marché, ils sont preneurs et ils ont définitivement fait des investissements. Et vous allez voir aussi qu'on va continuer à les supporter dans ce sens, puisque, évidemment, on aura plus de véhicules électriques. Maintenant, je pense que ça va prendre un certain nombre d'années avant de se rendre là. Mais il faut y croire. Vous savez, ce que COVID nous a apporté, il y a bien des gens qui ont regardé qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a plusieurs municipalités qui ont fermé certaines routes ou certaines rues pour l'automobile. On a vu en Europe, d'ailleurs, la transformation vers l'électrique, ça a été souvent fait à travers les municipalités, d'abord et avant tout dans plusieurs pays. Là, les niveaux de gouvernement ont poussé. On apprécie certainement l'enthousiasme et l'engagement du gouvernement du Québec aussi envers ses politiques environnementales. Et on voit bien qu'il y a un désir de vouloir développer pour la société de demain. Et Volkswagen veut définitivement contribuer à sa façon, puisque c'est un objectif que nous avons à l'horizon 2040. Nous voulons être une entreprise qui est neutre en CO2. Quand je dis une entreprise qui est neutre en CO2, c'est pas uniquement nos véhicules, mais c'est l'ensemble de tout ce que l'on fait dans l'entreprise. Incluant
toutes les opérations,
les usines, etc.
Toutes les opérations. Vous savez, on avait une rencontre avec des employés, des collaborateurs il y a quelques mois, et on a pris des crédits pour le fait, parce que pendant 2-3 jours, on s'est réunis, en se réunissant, tout ça, il y a des émanations de CO2 et tout ça. Ben, on a décidé de racheter des crédits. On prend beaucoup d'initiatives pour couper les plastiques. C'est des petites choses, mais vous savez, c'est des petites choses qu'on a tous une responsabilité. C'est bien de challenger les entreprises. On a une part de responsabilité, on les prend. On investit 33 milliards dans le développement d'électrique. On investit une somme colossale aussi dans le développement des bornes de recharge ultra rapides. Nos concessionnaires le font aussi en même temps. On a tous, comme concitoyens, aussi une responsabilité pour arriver à faire cette transformation.
Même chose que chez Chrysler, finalement.
Pardon?
Même chose que chez Chrysler, finalement, qui viennent d'annoncer un moteur Hellcat dans un Ram.
Voilà, voilà. Quelque chose de très vert.
C'est ça. Écoutez, moi, je vous dirais, l'avenir de Volkswagen est électrique. On l'entend beaucoup de gauche à droite. Mais au-delà de ça, si Volkswagen, à votre avis, devait améliorer un aspect aujourd'hui, ça serait quoi?
Bon, écoutez, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir continuellement faire mieux à écouter le consommateur. C'est certainement écouter aussi nos partenaires d'affaires qui sont très près des consommateurs. Et ici, un élément dans lequel, encore une fois, je crois qu'on doit arriver à faire beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on a fait par le passé, c'est de développer cet environnement-là digital pour supporter l'environnement physique. La grande force qu'on a, c'est qu'on a un réseau où les gens peuvent compter sur des gens de leur communauté, de leur ville, de leur municipalité, pour des gens qui vont prendre soin de leurs besoins de mobilité. Donc, c'est très important. Mais en même temps, on doit arriver à offrir encore plus de facilité aux consommateurs, de transparence aux consommateurs. Donc, ça, c'est une chose, une transformation dans laquelle on s'inscrit aussi avec nos partenaires au Canada, d'arriver à développer un environnement digital qui est beaucoup plus robuste. Vous savez, je mets beaucoup d'emphase sur l'électrique. Ceci dit, on a encore beaucoup de véhicules très performants d'un point de vue de consommation d'essence qui sont disponibles dans l'instant T et qui seront disponibles pour les années à venir. Une fois de plus, on ne fera pas un saut de 100% vers l'électrique du jour au lendemain. La société devra suivre aussi. Et Volkswagen veut être un précurseur dans cette transformation. Mais en même temps, on aura toujours, jusqu'à un certain point, jusqu'à un moment donné, on aura cette possibilité d'offrir des véhicules aussi très efficace d'un point de vue consommation et de CO2, qui sont des véhicules à essence.
Il ne faut pas oublier non plus que la voiture qui a pratiquement mis Volkswagen au monde après la Beetle est toujours commercialisée, c'est la Golf.
Ouais.
Et ça demeure pour bien des gens le modèle phare de Volkswagen.
Surtout les Américains.
Oui, surtout non, les Américains beaucoup moins, mais la Golf a été... La Golf et la Jetta, ce sont deux produits qui sont connus de tout le monde depuis des décennies. Alors évidemment, il y a encore ces produits-là ont encore beaucoup d'importance sur le marché, en espérant évidemment que le marché ne les délaisse pas eux-mêmes, parce que le marché de la voiture compacte aussi, c'est pas un marché qui est évident. Monsieur Boutin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps, et bonne continuité, bonne route.
Bon succès chez Volkswagen.
Merci beaucoup, messieurs. Oui, merci beaucoup et bonne santé à tous les deux. Faites attention à vous. Puis merci pour tout le travail que vous faites sur le développement de l'automobile au Québec. C'est très apprécié. Et bon courage et bon succès de votre côté.
Grand merci. Au revoir.